Oui, je voudrais d'abord remercier donc Denis Mola de nous accueillir une nouvelle fois dans les salons de sa librairie. Je voudrais vous remercier à tous d'être venus ce soir pour écouter nos deux auteurs qui sont donc là pour c'est la 8e édition, c'est ça Philippe Henriet, 8e édition du concours Citoyenneté européenne. Alors cette année, comme vous avez pu le constater, on a un petit peu innové puisqu'on a invité donc une auteure d'origine vietnamienne puisqu'elle arrive de Saigon, Duong Thuy, on va dire son nom comme ça pour simplifier, et puis Monsieur Bjorn Larsen qui lui est devenu un peu girondin puisqu'il a souvent fait escale à Bordeaux et il avait notamment participé à Parole d'Estuaire. Et il avait travaillé notamment avec le collège de Bourg en 2003 et puis il connaît bien notre département, il connaît bien la côte atlantique. Donc je voudrais les remercier tous les deux d'avoir accepté l'invitation conjointe donc, du Conseil Général et de France Liberté pour séjourner ici en Gironde. Et pour cette 8e édition, il y a 10 collèges qui participent, donc je les ai tous notés. Je ne sais pas s'il y a des principaux de collèges qui sont là, enfin j'en ai pas vu encore, mais il y a peut-être des enseignants. Donc pour ne pas les oublier, je les ai notés. Donc 10 collèges de Gironde, ça change un petit peu chaque année, on retrouve les mêmes, mais bon, il y en a qui... Suivant aussi, il faut dire que ça, le concours citoyenneté européenne se fait aussi suivant les chefs d'établissement. Alors quand les chefs d'établissement partent dans d'autres collèges, c'est les collèges où ils atterrissent, entre guillemets, qui prennent la suite. Donc cette année participe le collège par ordre alphabétique, le collège de Bassins, de Bourg-sur-Gironde, de Sestas, Le Teche, Libourne, Rosan, Saint-Loubès, Talence, Vérac et Villeneuve-d'Ornon. Voilà, 10 collèges. Donc hier, moi, j'ai eu le privilège d'aller écouter nos deux amis au collège de Bassins. Et je dois dire que ça fonctionnait, c'est un duo qui fonctionnait très bien. Et que même si l'Europe semblait un petit peu lointaine et absente des débats, ce qui est important, c'est que la parole a bien circulé entre les élèves de 4e et puis nos deux amis. Et on a abordé, le débat a permis d'aborder toutes les questions, surtout d'ordre culturel, toutes les différences qu'il pouvait y avoir entre la vision de l'Europe de Thuy, cette vision très idéalisée qui vient de l'extérieur, donc pour l'Europe. Alors, c'est un continent, elle va nous dire tout à l'heure, mais un continent très civilisé, un continent très cultivé. Nous avons beaucoup de chance d'être ainsi dépeints par Van Thuy. Je pense que c'est aussi important d'avoir cette vision un petit peu extérieure qui est très idéalisée, mais elle va tout à l'heure nous l'expliquer. Et puis, parallèlement à cette vision, il y a la vision européenne de notre ami Larsen, qui est un écrivain, on va dire, voyageur, un écrivain vagabond, pas un Européen, parce que je sais qu'il aime pas trop ce terme-là, parce qu'il cherche son identité européenne. Depuis le temps, il l'a pas encore trouvée. Donc, peut-être que ce travail et ses échanges avec les collégiens vont lui permettre d'avancer dans sa réflexion. Mais c'est avant tout un être libre. Et je me souviens que la devise de la Fondation France Liberté a longtemps été, Daniel Mitterrand qui disait ça, un être libre, c'est celui qui apprend l'autre à le devenir. Donc je pense que c'est au cours de ces rencontres avec les collégiens, beaucoup de progrès vont être faits, parce que pour Bjorn Larsen, l'Europe, ça doit être d'abord tout, avant tout, une Europe de la liberté. Donc nous, c'est surtout l'Europe humaine, c'est surtout l'Europe culturelle qu'on aborde à travers ces rencontres. Et je pense que c'est par ce biais-là qu'on peut apprendre à mieux se connaître, à mieux se respecter, à mieux vivre ensemble. Alors on va se poser des questions, si c'est cette Europe-là qui va nous permettre de réaliser nos idéaux. Comment on va essayer de redonner du sens à ce projet au départ très généreux? Et puis il faut se rappeler que si l'Europe a été créée, c'était au départ pour idéaliser des valeurs universelles de démocratie et des valeurs de liberté et de paix. Et au moment où des gens se battent sur la Méditerranée pour ces idéaux justement de paix et de liberté, je pense que tous nos espoirs sont dans l'Europe pour qu'elle ait cette capacité de réponse à ce besoin et à ce désir de démocratie et de paix. Enfin, c'est sur ces thèmes-là, justement, que ces deux visions vont essayer de converger. Je voudrais encore les remercier, vous remercier à tous de partager ce moment européen ensemble. Je vais donner la parole à Philippe-Henri Ledru, qui va présenter plus précisément nos deux amis.
Oui, merci Jacqueline. Donc on se retrouve pour la 8e fois, souvent avec les mêmes têtes. Merci d'être parmi nous de nouveau, là pour rencontrer, donc oui, une rencontre un petit peu insolite, une auteure, une jeune auteure vietnamienne et un jeune auteur, on va dire jeune, je viens de dire jeune, mais pas... Un jeune auteur bien connu de Gironde, qui nous vient de Suède. Quel rapport? Apparemment, bon, voilà, une auteure pour la jeunesse, un auteur voyageur, grand voyageur, ou étonnant voyageur. des parcours bien différents, mais justement, c'était comme le disait Jacqueline Madrel, notre idée d'un petit peu d'enrichir ce concours pour offrir une vue de l'Europe, de l'extérieur, enfin de l'intérieur de l'Europe, avec un ressortissant intra-européen, et puis quelqu'un venant d'une culture très différente, même si notre ami est très francophile, francophone, connaît bien la France et tout, mais bref, c'est un petit peu l'Europe vue d'une sous-région où les frontières existent encore beaucoup, parce que c'est vrai que quand on est en Thaïlande, on n'est pas du tout en Birmanie, on n'est pas du tout au Vietnam, et pas du tout au Cambodge, et pas du tout au Laos. Ce sont des pays avec des vraies frontières, avec parfois des visas, et avec une non-communication souvent entre les pays. Donc moi, lors d'un voyage, je me souviens d'avoir vraiment eu cette expérience de la frontière. Qu'est-ce que c'est qu'une frontière? Parce que là, vraiment, bon, en Europe, aujourd'hui, on passe d'un pays à l'autre, etc. Donc voir un peu comment les choses sont durant. Donc, pour présenter rapidement Madame Duong Thuy, donc, elle est auteure pour la jeunesse, en particulier, elle a écrit de nombreux textes qui ont été, certains sont traduits en anglais, les autres sont publiés au Vietnam, en français, peu de choses, on a fait traduire deux textes que tu pourras lire tout à l'heure, hein, en particulier. Et puis, elle s'est attachée, venant d'une famille francophone et francophile, elle a essayé par tous les moyens d'obtenir le moyen de venir visiter la France, de vouloir travailler en France, et elle a obtenu plusieurs prix, dont un, justement, distribué par l'ambassade de France, qui lui a permis d'effectuer un séjour de travail, en tant que journaliste à Ouest France, à Rennes. Cinquième fois, très bien, pour la première fois à Bordeaux, et donc on est très heureux de la voir. Bon, elle interviendra aussi samedi prochain à Lormont, à la médiathèque du Bois Fleuri, à l'invitation aussi de l'association franco-vietnamienne ici présente, et on remercie leurs représentants d'être là, donc le président et leurs membres qui font beaucoup pour la culture vietnamienne. Et puis Bjørn Larsson. Larsson est très connu en France. Ah, Larsson, ben oui, non, mais c'est Bjørn Larsson. Mais il est, c'est l'autre, mais l'autre, il est mort. Bon, donc, là, nous avons un auteur bien vivant, bien actif, et très, que l'on connaît, puisqu'il est venu lors d'un programme que nous avions monté il y a quelques années, qui s'appelait Paroles d'Estuaire, et on invitait à l'IDEC, où on invitait des auteurs européens parlant de l'estuaire, ou de la mer, du voyage, etc. Donc il était venu déjà dans les collèges, déjà à Bourg-sur-Gironde, et entre-temps il revient, comme disait Jacqueline Madrel, très souvent en France, à bord, mais il va nous raconter ça avec beaucoup plus de passion que moi. Je me souviens que, je crois que le premier bateau que tu as acheté, c'était à Marseille, c'est ça?
Non, c'est le dernier bateau.
Le dernier, c'était à Marseille, donc il a remonté les côtes de Bretagne. Donc, comme vous verrez dans ces nombreux ouvrages, et très variés, des ouvrages très variés, ça ne veut pas dire qu'ils s'éparpillent, mais ça veut dire que là même, il y a beaucoup de modes d'expression différentes. Le cercle celtique, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui est un roman d'aventure où je veux dire, c'est le genre de roman, vous voyez, alors ça se avec un tas de péripéties, etc. Toujours à la rencontre des gens, d'autres personnes, d'ouverture. Et c'est un roman qui se lit quand on est interrompu parce que il faut aller travailler ou parce que je ne sais pas quoi, on a hâte d'avoir 5 minutes pour dire « Ah, comment ça continue ?» etc. Donc on est attiré vraiment, c'est un roman pour adultes et pour adolescents, mais ça je le recommande vraiment, parce que aussi, il y a un tas de... Je dis, c'est pas qu'il parle de l'Europe, mais il parle aussi de avec ce cercle celtique de fédération, de confédération culturelle hors des frontières traditionnelles, etc. C'est très intéressant. Et puis, beaucoup d'autres ouvrages, dont l'un qui a été primé, qui a eu le prix Médicis il y a quelques années. Comme notre ami est un grand voyageur, il est membre aussi du comité Nicolas Bouvier. fait partie d'une est invité régulièrement à une grande manifestation d'auteurs voyageurs à Saint-Malo, qui s'appelle l'Étonnant Voyageur. On retrouve dans tous ses écrits un petit peu cette idée, non pas uniquement c'est pas du tourisme le voyage. Le voyage, c'est peut-être que ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'est le voyage aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente, avec cette notion de liberté qu'on retrouve partout. Donc on retrouve à la fois dans ses œuvres de fiction et dans ses œuvres d'essais, de nouvelles, dont je pense aussi à un recueil de nouvelles qui a été écrit avec d'autres auteurs sur les objectifs du millénaire. Donc on a vraiment un esprit d'ouverture qui est très, très important chez Björn. Alors,
vous n'avez pas mentionné mon livre sur l'adjectif épithète.
Non, ah, mais alors justement, la transition est toute trouvée, parce que je pense que j'ai assez parlé, et que tu vas parler de
l'adjectif épithète.
L'adjectif épithète,
non. Voilà. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait un ouvrage de 215 pages, ou même plus, sur la position et la signification de l'adjectif épithète en français? Parce que la place est libre. C'est ça qui est fascinant. Et donc parce que je suis aussi linguiste, je travaille à l'université, je suis professeur de français. Mais je vais pour revenir un peu au thème de l'Europe et l'identité, parce que je me suis beaucoup interrogé sur l'identité. Le cercle celtique est une tentative justement de me confronter à une identité racinée ou enracinée. Où le personnage principal, ou peut-être le personnage le plus intéressant, qui s'appelle Macduff, c'est un Écossais qui a 700 ans d'histoire derrière lui. Et on dit souvent que la Suède, c'est le pays le plus moderne de l'Europe. Disons, la modernité, la volonté de changer, de faire différemment les choses, ça nous appartient à nous. Pour une raison assez simple, c'est qu'on était un pays sous-développé jusqu'à 1900. On était très pauvres. Il n'y avait pas de noblesse, il n'y avait pas de cour royale important, etc. etc. Nous, notre littérature commence à la fin du 19e siècle. On n'a pas de Molière ou de Racine, etc. On n'a pas un bagage qui traîne derrière. Donc, dans ce sens-là, je suis peut-être suédois, c'est-à-dire que avec les Suédois, on ne se sent pas très attaché à la nation. Si vous arrivez en Suède, par exemple, vous parlez mal de la Suède, les Suédois seraient d'accord avec vous. Vous faites la même chose au Danemark, c'est pas du tout pareil. Et ces différences m'ont beaucoup fasciné au niveau de l'identité. Je recommande à tous de lire Les identités meurtrières d'Amin Malouf, qui raconte un peu aussi ma vision de l'identité comme quelque chose de choisi, une espèce de mosaïque d'appartenance qui peuvent changer d'un moment à l'autre, de l'histoire et aussi du parcours individuel. Mais alors, je me sens un peu porte-à-faux, parce que dans le sens où j'ai vécu à l'étranger, je parle de l'étranger par rapport à la Suède, bien sûr, toute ma vie. Donc, en fait, ça fait une année aux États-Unis, ça fait pareil en Irlande, ça fait 5-6 ans en France, 15 ans au Danemark, j'ai passé 6-7 mois naviguant en Espagne. J'ai très peu vécu en tant qu'adulte en Suède. Il n'y a pas de Suédois, sauf des pauvres types dans mes romans. Il y a un ou deux. Et ils sont là un peu comme personnages secondaires. Je ne saurais pas écrire un roman sur la Suède. Et je suis connu en Suède comme l'écrivain suédois le plus inconnu, c'est-à-dire qui est connu à l'étranger. Et je me rappelle quand j'ai eu le prix Médicis, il y a eu un tollé en Suède parce que les journaux m'ont téléphoné pour faire des interviews, ils ne savaient pas qui j'étais. Et même aujourd'hui, même en ayant des lecteurs fidèles qui me lisent en Suède, je ne fais pas partie du tout, disons, du milieu littéraire. Mais comme je parle 3 ou 4 langues, étrangère, et pas trop mal, c'est moi qu'on m'invite. C'est moi qu'on invite, n'est-ce pas, quand on a besoin d'un Suédois. C'est pour ça, voilà. Je suis le Suédois de service, sans l'être, justement. Et ils n'ont pas compris. À un moment donné, parce que maintenant, il y a la mode du polar suédois, donc je rentre dans un Fnac à Paris, et tout d'un coup, 10 ans plus tard, je vois polar suédois. Ah oui, oui, le narrateur est suédois, mais ça se passe en Écosse, ça parle de l'identité celtique, etc. Et tous mes romans sont pareils. Le Capitaine et les rêves, c'est 4 personnages dans 4 coins de l'Europe, sauf la Suède, etc. etc. Donc ça me gêne un petit peu d'être présenté comme suédois, si vous voulez. Écrivain de langue suédoise, oui, je revendique, parce que j'écris ma littérature en suédois, mais ma science en français ou en anglais. Et j'ai écrit un essai qui s'appelle « Besoin de liberté », je l'ai écrit en français directement. Et c'était assez drôle parce que j'étais invité par mon éditeur, qui est Le Seuil, au Salon du Livre de cette année-là. Le thème, c'était la francophonie. Et ils ont essayé de me faire inviter par le Salon, comme un écrivain francophone. Et ils ont répondu, mais vous savez, un Suédois qui écrit en français, ce n'est pas un francophone. Pourquoi ? Parce que la francophonie, c'est une notion politique. Ce n'est pas une notion d'ouverture, vraiment. C'est quand même un reste de cette idée de la France qui va remplacer, ou le français qui va remplacer l'anglais, même si on le sait, on sait que c'est pas, la lutte est finie. Mais par exemple, aujourd'hui, j'ai vu, je suis entré, c'était pas ici, il y a un nouveau roman de comment elle s'appelle, Malika Mokadem, qui est sorti. Elle est médecin à Montpellier. Elle écrit en français, elle vit en France depuis 25 ans. Où se trouvent ses livres ? Littérature étrangère, littérature maghrébine. Et ça, on peut en parler un petit peu, parce que pour moi, la littérature n'a pas de frontières. La littérature ne doit pas être nationale. Moi, je m'en fous si c'est un Français ou un Suédois ou un Japonais ou un Vietnamien qui a le prix Nobel. L'important, c'est que ce soit de la bonne littérature qui traverse les frontières. Donc voilà, je m'arrête là pour lancer un peu les débats.
Qu'en pense notre ami ? Vu de Saigon, comment voit-on l'Europe ?
Bonjour. Avant de répondre à cette question, je voudrais parler un petit peu de moi, comme ça vous pouvez mieux comprendre. En fait, je suis née en 1975 à Saigon, juste après la chute de Saigon, 4 mois juste après la chute de Saigon. Donc la vie à cette époque était vachement dure. J'ai grandi dans une maison entourée de bouquets en français. Parce que mon père, lui, il a fait les études dans les écoles françaises avant. Donc, dans la maison, il y a plein de bouquets français. Donc, j'ai grandi avec les bouquets français, mais je n'arrivais pas à lire à cette époque. Et donc, mes parents, qui sont mes premiers professeurs de français, avec un bouquet qui s'appelle Cours de langue et de civilisation, de l'auteur Moget. Donc, ils m'ont donné des premiers mots français. Donc, à travers ce cours de langue et de civilisation, bon, j'ai rêvé d'aller en France un jour. Mais à cette époque, pour aller en France, c'est impossible, c'est vachement dur. Mon premier chemin est de travailler sur les études pour atteindre le but d'aller en France un jour. Là. J'ai pratiqué le français dans la rue avec les touristes, tout ça, pour améliorer mon français. Et en 1998, j'ai gagné le concours qui s'appelle Concours de découvrir la France. Après 2 ans d'échec, j'ai beaucoup travaillé pour gagner la troisième fois. Donc j'étais lauréate de ce concours-là et je suis allée pour la première fois en France. J'étais à Brest à cette époque. D'un seul coup, mon premier voyage, c'est à la France, c'est à Brest, c'est plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir. Pour une jeune comme moi à cette époque, jeune, mais c'est déjà 23 ans, mais j'étais très, très naïve, trop jeune pour comprendre qu'est-ce qui se passe hors de la frontière, hors du Vietnam. Donc j'ai participé maximum des activités en France et après en Suisse. J'ai même fait le vendange avec les Suisses pour avoir l'expérience. Et en retournant au Vietnam, j'ai beaucoup écrit des reportages, des récits, des romans, des essais, tout ça. Et en grand succès, les jeunes, les collégiens, les lycéens, les jeunes et même les pas jeunes au Vietnam qui apprécient beaucoup ce que j'ai écrit parce que moi, c'est... J'ai la chance de découvrir quelque chose hors du pays. Et la France, c'est un pays mais bien civilisé, plein de choses, plein de choses à découvrir. Et après ce grand voyage, mais je me demande, je dois retourner encore une fois. Ça, c'est l'essentiel, quoi. Donc, j'ai travaillé, lui aussi, pour obtenir une bourse de stage en Ouest-France pendant 2 mois. Donc, j'étais à Rennes. Je fais un stage avec les journalistes bretons. C'est 2 mois, c'est pas beaucoup, mais plein d'expériences, plein de choses à apprendre. Et bien, chaque fois que je reviens en France comme ça, je me sens très très émouvante, parce que pour une Vietnamienne ou pour les Vietnamiens en général, sortir du pays, c'est quelque chose impossible. Et moi, je sais que j'ai la chance de découvrir. Donc, je crois que ma mission est d'écrire, est de partager ce que j'ai découvert aux autres Vietnamiens. Tous mes livres, tous mes bouquins sont des best-sellers au Vietnam. Parce que je suis la seule écrivaine qui peut écrire quelque chose hors du pays, qui peut raconter des choses de réel de l'Europe. Et après ça, j'ai obtenu une autre bourse du gouvernement belge pour aller en Belgique pour faire une étude approfondie là-bas pendant un an à Liège. Donc encore une fois, un parcours d'expérience très riche, plein de choses à apprendre. Et après Belgique, j'ai travaillé pour Sanofi Aventis. C'est un groupe pharmaceutique français pendant 6 ans. Pendant 6 ans là, j'ai revenu plusieurs fois à Paris, en Espagne, un peu tout en Europe. Donc pour moi, l'Europe, c'est très idéal pour la culture, pour l'architecture, pour plein de choses très très civilisées. Je veux dire. Et maintenant en Asie, je travaille maintenant avec les Singapouriens. J'ai beaucoup voyagé en Asie. Il y a beaucoup de pays asiatiques qui développent, qui avancent énormément. Par contre, la culture là-bas n'est pas encore très, très brillante, je veux dire. Donc pour moi, l'Europe est tout le temps un continent préféré, un continent que un continent où je veux vraiment retourner. Donc, je dois dire que cette fois aussi, dès que je suis sortie de l'avion, je me sentais très, très émouvante. Je suis très contente de retourner en France, de parler français, parce qu'au Vietnam, maintenant, je ne parle plus français. Je travaille avec les Asiatiques, donc je parle anglais. J'ai un peu oublié mon français devient terrible, j'ai oublié les mots féminins, masculins, tout ça. Bon, ben, excuse-moi. Cette fois, quand je reviens en France, je me sens c'est comme je rentre à ma maison, alors c'est très émouvant. J'ai déjà répondu à la question, non ?
Oui. Il y a une chose qui mérite d'être dit, c'est qu'hier, on a fait 2 collèges. On a fait quelques classes et discussions. Et donc, vous aviez demandé aux élèves s'ils étaient fiers d'être français. Et quelle était la réponse ?
Il n'y a que deux
sur 30 ou 40 qui répondaient être fiers d'être français. Et ça vous a beaucoup étonné ?
Oui, beaucoup, beaucoup. Peut-être parce qu'ils sont trop jeunes. Ils sont trop jeunes. Si un jour ils peuvent venir en Asie, au Vietnam même, et dans ce cas-là, je crois, il doit répondre qu'être français ou être européenne, c'est une fierté.
Mais est-ce que vous avez raison ou...
Ils ont donné des raisons?
Non, mais pas raison. Pour que... Il y a une fille qui dit, pour moi, c'est les États-Unis.
Ah oui.
C'est un regard sur les États-Unis. Ou, j'ai voyagé en Corée, en Singapour, en Hong Kong. C'est très avancé. L'économie là-bas, c'est très développé. Par contre, comme je vous dis, la culture là-bas, c'est encore pas très brillante. Non, pas du tout. C'est non. Donc, je crois pour que... Et je vais vous partager. Une fois, j'ai gagné un concours, les concours de langue. Donc, j'étais lauréate de ce concours-là. Donc, j'ai répondu à la question pourquoi. Pourquoi tu choisis le français, pourquoi pas l'anglais? Parce qu'à cette époque, maintenant aussi, au Vietnam, on ne parle plus français. Les jeunes qui choisissent l'anglais pour trouver un emploi. Donc pourquoi moi, j'ai choisi le français comme ma première langue étrangère? Donc j'ai répondu, ben oui, l'anglais c'est nécessaire pour les affaires, mais le français... C'est une langue de la culture. Donc, les jurys qui m'a donné 10 sur 10.
Non. Un jury français.
Mais c'est vrai que maintenant, je travaille avec les chefs singapouriens. Je parle anglais avec eux, mais pour eux, la langue française, c'est une langue de la culture, quoi. Même s'ils ne savent aucun mot français, mais ils m'apprécient beaucoup parce que je peux parler français. Ils m'apprécient beaucoup. Alors, ils me considèrent comme quelqu'un qui est très civilisé. Bon.
Oui, mais on peut-être justement soulever cette question des langues parce que ça, c'est un problème en Europe, bien sûr. Et c'est un problème qu'on a tant de langues et qu'on est obligé, plus ou moins, on se sent obligé de passer par l'anglais dans la plupart des cas. Mais on voit bien, que, par exemple, en Suède, c'est un petit pays. Et vous ne savez pas à quel point vous êtes chanceux, parce que vous privilégiez, parce que vous parlez quand même une langue où il y a quand même 100 millions de personnes qui le parlent dans le monde. Nous, c'est 9 millions. Il n'y a pas un éditeur, ou presque, enfin, il y a peut-être deux éditeurs, deux rédacteurs à Paris qui lisent le suédois. Donc même pour être traduit, même pour se faire connaître, la musique, etc., et si vous prenez la Slovénie, ils ont quoi, 2 ou 3 millions. Je me rappelle, j'avais une discussion au Québec avec les Québécois qui disaient, ils avaient tellement, enfin c'était parce que tout était anglo-saxon et les États-Unis à côté, et ils avaient du mal à se faire publier en France, etc. Et le Québec, c'est un pays avec 9 millions d'habitants, comme la Suède. Mais il faut arriver à une espèce de, je ne dis pas parité, mais il faut quand même arriver à une espèce de d'équilibre en ce qui concerne l'apprentissage des langues étrangères. Moi, je pense que tout le monde n'a pas besoin de parler anglais. Moi, je pense que tout le monde a besoin de parler bien deux langues étrangères en dehors de la langue maternelle. Et ce n'est pas nécessairement le français. Ça peut être polonais, ça peut être suédois, ça peut être danois. C'est que chaque pays civilisé, à mon avis, ne peut pas se contenter d'avoir l'anglais plus une autre qui serait allemande ou français. Mais ça, bien sûr, cette idée-là, ça a du mal à passer, certainement. Mais aussi, parce que il faut, si l'Europe va se construire, il faut quand même qu'on profite des acquis et des points forts des uns et des autres. Mais ça présuppose quand même qu'on peut communiquer. Alors l'erreur, à mon avis, ou l'illusion, c'est de penser qu'on communique en anglais. Parce qu'on parle tous très mal l'anglais, sauf les Anglais. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de pidgin qui existe, qui est pour converser autour d'une table. Mais dès que c'est sérieux, on fait intervenir un interprète, un traducteur. Dès qu'on doit rédiger un contrat ou quelque chose, bien sûr, tout le monde sait que ça ne suffit pas, l'espèce de pidgin là, que tout le monde parle. Et c'est pour ça qu'il faut changer complètement la politique linguistique de l'Europe si on veut arriver à un dialogue constructif. Je vais prendre un petit exemple. C'est quand il y a eu la tentative de fusion entre Renault et Volvo en Suède. Alors, ça a échoué. Pourquoi? Parce que les petits actionnaires suédois, Volvo, c'est la société anonyme qui a le plus d'actionnaires, le nombre le plus élevé d'actionnaires individuels. Alors, eux, ces petits actionnaires étaient très sceptiques envers ces gens du Sud, les Français. On peut pas, ils parlent une langue, on comprend pas, etc. Et c'est des gens du Sud, il y a sans doute la corruption. Ben, il y en a, bien sûr, mais il y en a chez nous aussi. Alors, ça a échoué à cause d'un malentendu. Par manque de connaissances, par manque, disons, de dialogue. Et qu'est-ce qu'ils ont eu au lieu de ça? Au lieu d'avoir Renault, qui correspondait parfaitement à une société, disons, même nationalisée en partie, qui correspondait, disons, au marché du travail suédois, ils ont eu Ford. C'est-à-dire qu'un requin capitaliste américain, et bien sûr, maintenant, Volvo, c'est chinois. Parce que ça a été revendu, parce que ça ne faisait pas suffisamment d'argent. Donc là, c'est un exemple très concret du fait qu'on a besoin de beaucoup plus de communication et de dialogue, mais de qualité. Pas seulement pour parler du vin à Bordeaux, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est plaisant, mais ça va pas faire avancer l'Europe.
Moi, j'avais une question par rapport ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir est-ce qu'il y a une aujourd'hui, on parle par exemple, il y a le invité d'honneur au Salon du Livre, c'est les littératures nordiques.
Oui. Hein,
bon, tout à l'heure, tu as abordé la question par rapport à ta suédoisité.
Comme, oui.
Et est-ce que, pareil, même question à notre ami, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une littérature vietnamienne? Est-ce qu'on peut mettre tout le monde dans le même... Est-ce qu'il y a des traits communs, ou est-ce que c'est quand même quelque chose de très individuel? Comme tu le disais, bon, ce que j'écris, moi, je suis la seule à écrire un petit peu sur ce qui se passe à l'étranger, etc. Bon, d'autres auteurs vietnamiens qu'on connaît bien, qui sont venus ici, invités par l'association, entre autres, bon, on a beaucoup de littérature d'exil, on a beaucoup des thématiques qui sont traditionnelles, qui sont celles de la guerre, qui sont celles de la colonisation, etc. On a des clichés pays par pays. Par exemple, moi, je me suis occupé pendant un certain temps de littérature allemande. C'était assez... Combien de fois j'ai entendu des gens du public me disaient « Oui, mais c'est très bien ce roman, mais c'est pas très allemand. » Ah, c'est quoi? Pourquoi c'est pas très allemand? Ben, parce que ça parlait pas de la guerre de 45, parce que ça parlait pas de grande concentration, parce que ça... Et on en est revenu un petit peu maintenant, bon, depuis... Mais ça fait pas très très longtemps. Donc, un auteur aujourd'hui allemand, les auteurs allemands qui avaient du succès en France, c'était très souvent des auteurs qui n'avaient pas du tout de succès en Allemagne, pas tous, hein. Mais les vrais auteurs allemands, les grands auteurs, en France, sont quasiment pas connus, parce que c'est... Donc, est-ce qu'il y a des traits? Est-ce que, vraiment, aujourd'hui, quand on dit les littératures nordiques, sachant déjà que les langues et les cultures sont complètement différentes, entre les Finnois, les ce qu'on appelle les pays baltes, ce qui veut rien dire non plus, et... Donc nous, on met ça dans le même pot. Est-ce que ça a un sens, ou quel est l'intérêt d'avoir ce dénominateur commun, si ce n'est pour faire plaisir aux universitaires, pour mettre les gens en catégorie?
C'est pas seulement les universitaires, c'est les bibliothécaires, c'est les libraires qui vont les étiqueter en bas, là. C'est-à-dire que ça sent peut-être un sens, mais le problème, c'est que personne ne sait. Parce que dans un pays comme la Suède, on publie, je sais pas, 700 romans chaque année. En France, ça doit être 3000, 4000. Alors, ceux qui prétendent connaître, disons, le roman français d'une année, est un menteur. Une personne peut lire, je ne sais pas, 50, 60, peut-être quelques comptes rendus en plus, etc. Donc personne ne sait ce que serait la littérature scandinave, et encore, enfin la littérature suédoise, et encore moins la littérature scandinave, parce qu'au Danemark, ils publient 500, au Norvège, 600, etc. Je crois que si on parle de littérature européenne, il doit y avoir de publier chaque année en Europe, mettons, 15 000 romans. Qui connaît ça? Personne. Ceci dit, il y a mon éditrice, parce qu'une femme qui est très bien, italienne, qui a sa maison d'édition est spécialisée dans la littérature nordique. Elle dit que, selon elle, dans la littérature nordique, il y a une attention, je dirais, plus grande vers le fond. C'est-à-dire que c'est surtout par rapport à l'Italie, parce qu'en Italie, ils parlent tout le temps, et c'est très élégant, mais ils n'ont rien à dire. Je généralise un peu. Mais c'est-à-dire qu'un écrivain comme Calvino, par exemple, qui est d'une élégance, c'est cette espèce de... C'est un bistouri, c'est un chirurgien qui est là à opérer la langue, mais il s'en fout si c'est un tumeur au cerveau ou si c'est un appendice. Tandis que nous, c'est plus existentiel. La contrepartie de cela, c'est qu'il y a beaucoup plus d'angoisse et beaucoup moins d'humour. Dans le polar suédois, on ne rit pas. On ne sourit même pas, je veux dire. C'est vraiment, c'est du sérieux. Et pendant longtemps, les éditeurs étrangers ne voulaient pas la littérature suédoise parce qu'il y avait trop d'angoisse. Et il y avait trop de Dag Hammarskjöld, trop de Bergman, etc., même si c'était en film. Alors mon éditeur allemand m'avait dit, mais pendant longtemps, s'il y avait un roman avec un Suédois, on ne le prenait pas, parce que c'était trop dur. Ça a peut-être changé un petit peu, mais il y a quelques différences. Mais le fait est que nous, on est invités, on parle déjà on parle français. On est allé à l'étranger. Moi, j'ai vécu à l'étranger, donc on n'est pas typique. C'est peut-être pas nous qu'il faut poser la question.
Mais il nous reste à remercier nos deux amis, bien sûr, et vous aussi, pour ce dialogue qui est toujours trop court. On ne fait qu'approcher les choses, et Ahmed vient de le dire, c'est vrai que ça a été intéressant de rentrer plus en détail dedans, mais ça donne une... Le principal, c'est d'avoir comme des tapas qui permettent d'avoir un avant-goût de ce que l'on peut lire, bien sûr, avec Björn, et puis en espérant que la leçon d'optimisme que nous donne notre amie vietnamienne dans ses romans sera lue, parce que c'est vrai qu'on a bien, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi, on a besoin aussi de cette leçon d'optimisme, de montrer qu'avec ténacité on arrive à faire des choses. C'est vrai que j'ai eu la chance de découvrir, enfin d'approcher de très loin ce très beau pays, et on sent parmi les jeunes, en particulier tout ce que disait, on sent parmi les jeunes exactement ce que tu viens de dire. Par exemple, ces jeunes voient un tourisme et on commence à parler anglais, pas pour leur vendre forcément quelque chose, pas pour, etc., mais pour parler, pour ouvrir. Et tu viens d'où? Et t'es marié? Et t'habites où? Et c'est où? Etc. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas généraliser, il ne faut pas rentrer dans les clichés, mais. Je pense que cet optimisme et ce dynamisme dont tu parles, il existe bel et bien. Et parfois, nous aussi, en France, on en a bien besoin.
Ouais, voilà. Vous êtes un peu trop râleur.
Et trop défaitiste.
Pour généraliser.
Pardon. Oui, donc vous avez les livres de Björn Larsson. Et on vous conseille aussi, je ne fais pas de publicité, j'ai aucun intérêt dans l'affaire, mais l'interview dans Lire est vraiment très bien. Merci à vous et à l'année prochaine.